Il est presque 9h41 sur France Inter, l'instant N, mais l'instant M monte sur le ring. Demain, la boxe fait son grand retour sur Canal+, qui était la chaîne, souvenez-vous, des belles affiches dans les années 80 et 90. Contrat signé pour 4 ans avec l'étoile de la boxe française, Tony Yoka, champion du monde poids lourd et médaille d'or au JO de Rio. Demain, il passe pro, Tony Yoka, et il affronte Travis Clark, invaincu depuis 12 combats. Mais pour cette génération de boxeurs, et c'est ça qui est passionnant, l'image, la médiatisation du sportif a pris autant d'importance que le sport lui-même. Tony Yoka a accepté de nous parler de cela la veille du combat. Impossible de le faire venir en studio, évidemment. Il est installé dans un hôtel, pas loin du ring, repos, concentration avant l'épreuve, face caméra. L'instant M s'est rendu sur place. Dès qu'il fait un pas dans le couloir, Tony Yoka, les gens se précipitent pour des autographes et des selfies. Tony Yoka, 2 mètres et 105 kilos de muscles. Et puis une réflexion très maîtrisée sur la façon de se mettre en scène.
L'instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Yes, champion, Tony Yoka est champion olympique. Premier français à décrocher le titre dans la catégorie reine. À 24 ans, Tony Yoka devient un poids lourd du sport français. C'est une grande carrière qui s'ouvre à lui. Et puis, quelle histoire extraordinaire avec sa fiancée Estelle Mosley. Elle est aussi sacrée championne olympique il y a 2 jours. Ils forment un couple en or, un couple de champions olympiques uniques.
Regardez
les voici
image.
Dans les bras
l'un de du double champion.
Les fiancés de Rio.
Bonjour Tony Yoka.
Bonjour.
Votre sacre à Rio, Estelle Mosley, qui est donc votre compagne, votre femme, également médaille d'or, catégorie poids léger féminin, emballement médiatique phénoménal autour de votre victoire, autour de votre couple aussi. On va parler de ce choix que vous avez fait, de choisir l'Américain Richard Schaeffer pour vous accompagner dans la promotion de vos combats et dans leur organisation. Vous avez négocié directement la vente exclusive de vos droits à télé à Canal+ pour 4 ans. Et c'est plutôt inhabituel dans le secteur.
C'est du jamais fait, surtout hein, quand on passe chez les professionnels de négocier en direct. Mais je savais ce que je voulais. Il y avait des promoteurs qui étaient attachés à certaines télés, des télés qui étaient attachés à certains promoteurs. Et moi, je voulais un peu casser tout ça. Donc, il me fallait un promoteur capable de m'amener jusqu'au titre de champion du monde, qui a vraiment de grosses relations dans les fédérations internationales. Et en même temps... un bon partenaire média, parce que forcément, ça passe par ça, c'est super important.
C'est super important. Et quelle aurait été l'autre solution? C'est-à-dire que on voit par exemple aux États-Unis où le public est beaucoup plus acquis à la boxe, où il y a une tradition médiatique beaucoup plus forte. On voit aux États-Unis des matchs qu'on appelle vendus en pay-per-view, c'est-à-dire que plutôt que de signer un contrat avec une télévision, les téléspectateurs achètent et payent match pour match. Le dernier combat qu'on a appelé le combat du siècle, 95 $ pour voir le match.
C'est une autre manière de faire maintenant. C'est vrai que le business en France, il n'existe pas. C'est un marché qui n'existe pas en France. Donc, il faut créer de la demande.
Ouais.
Là, j'ai vendu mes droits pour 4 ans. Mais à partir du moment où tu arrives tout en haut et que tu es champion du monde, que tu es vraiment bien installé chez les professionnels, après, tu vends combat par combat. C'est plus des contrats sur plusieurs années. Donc voilà, je voulais signer 4 ans histoire d'avoir... une sécurité et de pouvoir vraiment m'investir à 100%
dans ça, parce que la médiatisation en fait pour un boxeur, c'est aussi le moyen de financer votre évolution sportive et les moyens dont vous disposez. Alors oui, il y a pas de marché en France, il y a eu un marché en France, il y a eu Canal+ dès son lancement en 84 qui avait toutes les grandes affiches de la boxe américaine. Pour vous, c'est des souvenirs d'enfance?
Pour moi, c'est des souvenirs. Je me souviens quand j'étais petit, mon père me réveillait dans la nuit pour regarder les combats
boxeur,
américains.
Hein.
C'est ça. Ouais. Qui était boxeur, qui est entraîneur, qui était d'ailleurs mon premier coach. La dernière fois, c'était Tyson Lewis.
Ouais.
En 2002. Il m'a réveillé, je crois, vers les coups de 3-4 heures du matin.
Et c'est un match qui vous a marqué?
C'est un match qui m'a marqué parce que je me suis toujours dit que quand je serais grand, je serais comme eux.
C'est ça. Et depuis, on a manqué de têtes d'affiche en France.
On a manqué de têtes d'affiche. C'est pas que les Français n'aiment pas la boxe ou que ça marche pas en France, c'est juste qu'il nous faut une tête d'affiche. On a eu une explosion des licenciés après la Coupe du Monde 98, pareil pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà, il nous fallait quelque chose. Là, il y a eu l'effet Rio. On a plus 33% de licenciés en France. Ouais. Le premier sport olympique pouvoir de médaille. Donc non, on est bien lancé. Maintenant, faut continuer comme ça.
Faut continuer comme ça. Donc là, on va écouter l'extrait d'une vidéo. C'est un combat de MMA. C'est un dérivé du free fight. Kimball slice means business. Slightly. Can't grab it. These two again ready to tee off. What a start already to this main event. Just listen to this crowd. They actually touch gloves. Énormément vu sur les réseaux sociaux, énormément vu sur Internet. Parce que pendant qu'on manquait de tête d'affiche en France, auprès des jeunes, on a l'impression que la boxe anglaise a vraiment perdu du terrain, que le MMA, pour le coup, a totalement explosé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que vous jouez aujourd'hui en France aussi? C'est-à-dire une espèce de reconquête de votre sport?
Une reconquête assez... du public. Après, le fait que les boxeurs s'évitent, ça fait beaucoup de mal à notre sport. Et du coup, des combats comme Joshua Klitschko, ouais, ça fait énormément de bien à notre sport et à notre catégorie, parce que ça fait plus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu un combat au sommet chez, ouais, les poids lourds.
Alors, donc, Cyril Hanouna a servi d'intermédiaire dans la négo de ce contrat, hein, entre vous et le groupe Vivendi, qui est la maison mère de Canal. Vivendi qui met toutes ses agences, en fait, et toutes ses antennes au service de votre promotion médiatique. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans la boxe, c'est que comme les matchs sont extrêmement rares, il faut exister médiatiquement entre les matchs.
C'est ce qui a fait pencher la balance, en fait, parce que voilà, il y a la retransmission des combats qui est important, mais je boxe une fois tous les 3-4 mois. Ouais. Donc il fallait pouvoir tenir le public en haleine durant ces 3-4 mois-là. Donc c'est vrai que le rôle de Cyril a été primordial par rapport à ça, parce que du coup, il y a un projet de documentaire télé-réalité qui est associé avec lui, et il y a forcément les différents documentaires que propose Canal+, à savoir Intersport,
qui sont c'est ça. Donc là, par exemple, en ce moment, vous êtes suivi par une caméra, vous êtes tout le temps microté.
C'est ça.
quand vous parlez d'un documentaire de télé-réalité, en fait, l'idée, c'est de participer à la sélection de futures étoiles, ou en tout cas de jeunes pousses de la boxe. Vous allez le faire avec Estelle Mosley, votre
compagne ?
Exactement,
parce que maintenant, la boxe féminine est au programme olympique, donc je vois pourquoi il y aurait que des hommes.
Justement, depuis votre victoire en duo, vous pouvez constater de manière assez vertigineuse la différence de médiatisation et d'intérêt médiatique entre un boxeur masculin et une boxeuse féminine.
C'est sûr. Déjà qu'en France, on avait du mal chez les hommes, donc chez les femmes, c'est encore pire. Maintenant, Estelle n'avait pas forcément envie de passer professionnelle. Elle a pris une pause, on fait un bébé. Donc
alors voilà, vous attendez un heureux événement. La médiatisation d'un sportif aujourd'hui, et ça va bien au-delà de la boxe, mais nous on va parler de la boxe, c'est aussi une mise en scène de soi sur les réseaux sociaux. C'est devenu totalement indispensable. Vous jouez le jeu, vous postez des photos de vous avec les mains sur le ventre rebondi d'Estelle Mosley, en tweetant que 2016 c'était l'année du couple en or et que 2017 ce serait l'année du bébé en or. Et votre femme aussi, manifestement, elle assume parfaitement, elle explique à l'équipe que votre couple est devenu un plan com et que c'est normal parce que c'est une histoire qui plaît.
C'est une histoire qui plaît. Après, les retours qu'on a eu après les Jeux Olympiques, c'était les gens avaient été touchés par la sincérité, en fait, ouais, de nos différents messages. On a envie quand même de rester maître de notre communication, de notre couple. On est parti aux États-Unis, elle était déjà enceinte, on le savait, on ne l'avait pas annoncé. Et deux semaines avant qu'elle rentre en France, on a posté cette photo parce qu'elle commençait à prendre du bidon. Donc ça se voyait. On n'avait pas envie qu'elle rentre en France et que ce soit quelqu'un d'autre, ouais, que nous qui annonce qu'elle est enceinte. C'est pour ça que deux semaines avant qu'elle rentre en France, on a posté cette photo sur les réseaux.
Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment votre génération, quoi. C'est-à-dire à la fois être totalement sincère et naturel et en même temps extrêmement maître de tout ce système que vous connaissez, enfin vraiment avec lequel vous avez grandi. On a retrouvé cette vidéo de Floyd Mayweather. Alors, Floyd Mayweather, c'est la méga star américaine. Et il a poussé beaucoup, beaucoup plus loin. Mais c'est intéressant de vous confronter à ce qu'ont fait certaines grandes figures de votre sport ces dernières années. C'est-à-dire que lui, il s'est fabriqué un personnage médiatique, Money Mayweather, qui étale un fric fou. Et devant la caméra, là, on va l'entendre, il jette des bifetons les uns après les autres devant... L'objectif, il pousse très loin, la provoque. Leave me alone, I'll make it rain all day long. My name is Floyd, my name is Floyd, my name is Money Mayweather. Voilà, donc chez HBO, qui est son diffuseur aux États-Unis, Floyd Mayweather, il réclamait depuis longtemps qu'on le mette en avant. Et puis, c'est pas venu, donc il l'a fait lui-même. Il s'est fabriqué ce personnage hyper sulfureux. Vous, vous en pensez quoi ? Elle est où la limite dans la mise en scène et dans la fabrication de ce personnage médiatique ?
Je connais pas mal de monde qui sont entraînés avec Floyd et qui me disent que il est totalement différent de ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, de ce qu'il montre à la télé.
Ah oui, donc c'est vraiment un personnage.
C'est un personnage.
Parce que c'est aussi quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement défavorisé aux États-Unis, dont le père est tôlard, dealer, lui-même a été condamné plusieurs fois pour violence conjugale. Donc toute la légende peut aller avec quand même.
Ça peut aller avec et en même temps il fait tout pour. Mais vraiment, on m'a dit qu'il était vraiment différent de ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas juste être un sportif, juste être bon dans ton sport, parce que sinon, t'existes pas. Il faut que tu sois bon dans ton sport et que tu sois super bon en com. Sinon, ça marche pas. Il faut que les deux matchs ensemble, t'as les sportifs, prends l'exemple sur les footballeurs, t'as les footballeurs qui sont très très bons, mais qui ont pas une superbe com. Du coup, t'en entends pas trop parler, ils ont pas forcément beaucoup de contrats sponsoring, parce que ça marche avec ça aussi. Et t'as des sportifs qui sont bons, mais pas tant que ça, mais comme ils ont une super com qui prennent vraiment soin de leur image et de leur public, et ben
donc pour vous c'est intégré, c'est complètement intégré à votre plan de carrière, c'est réfléchi.
C'est
de
très
la
réfléchi.
Même manière que ouais, c'est ça, que
c'est
votre
très réfléchi parce qu'aujourd'hui le sport a évolué et on est beaucoup plus sur un sport management marketing que sur de la boxe pure où tu vois le boxeur à l'ancienne qui monte sur le ring, qui prend des coups et qui sort avec le nez cassé et c'est fini.
Alors il y en a aussi qui se répandent en clash sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple en boxe style, donc qui n'est pas votre spécialité à vous, Patrice Carteron qui s'insulte avec un rappeur qui s'appelle Booba, alors qu'il fait ensuite le tour des plateaux télé pour s'expliquer, y compris sur les réseaux, qui se clash aussi tellement par exemple avec l'un de ses adversaires, ça va tellement loin que le combat est annulé. C'est-à-dire que oui, il faut se fabriquer un personnage et en même temps il faut aussi se fabriquer des limites, j'imagine.
Chaque affaire avec ses moyens. Par là, qui sans faire ça, ils peuvent pas faire de buzz. Juste avec leur sport ou en ayant une bonne image, ils savent qu'ils vont pas plaire, donc ils essayent de sortir du contexte sportif et d'attirer l'attention. C'est pour ça qu'il y a des bagarres, des insultes. Je pense qu'ils ont pas de problème, mais on le voit de toute façon à chaque fois à la fin de ces combats-là, ils se freinent toujours dans les bras, ils se font plein de bisous. Donc c'est complètement ridicule.
Donc c'est du sketch, du spectacle, c'est du showbiz.
C'est de la mise en scène, mais c'est comme ça, ça fait partie de notre sport aussi.
Ali Boumouye, Ali Boumouye, Ali Boumouye. Can you pitch 100,000? Can you pitch 100,000?
Alors là, on entend un extrait de When We Were Kings, qui est donc ce très très beau documentaire consacré à la rencontre entre Mohamed Ali et Foreman à Kinshasa en 74. Si on a choisi cet extrait de When We Were Kings, c'est aussi parce que vous êtes d'origine congolaise, parce que il y a l'un de vos combats où on criait Tony Boumaye, comme dans le public à l'époque, où on criait Ali Boumaye pour encourager Mohamed Ali. Donc pour vous, c'est la figure tutélaire, c'est la référence absolue.
Moi, j'ai grandi avec Mohamed Ali. Ce reportage, je le vois un petit peu moins de 50 fois, parce que mon père était un grand fan d'Ali. Il avait 12 ans à l'époque du combat, et donc il a vibré avec toute la ville.
Ouais. Donc il était où votre papa à l'époque quand il avait 12 ans ?
À Kinshasa. Il était à Kinshasa. Donc toute la ville était prise pendant des semaines et des semaines par ce combat-là.
Ouais.
C'est pour ça qu'il a commencé la boxe et qu'il m'a transmis sa passion. Donc voilà, j'ai vraiment grandi avec Mohamed Ali. C'est d'ailleurs de lui que je tiens mon style de boxe.
Comment vous le décririez, votre style de boxe ?
Très aérien, en déplacement, très technique. Je travaille plus sur la faute de l'adversaire et tout en vitesse, tout en finesse, contrairement aux autres poids lourds.
Alors, vous allez connaître cet après-midi votre première conférence de presse. La conférence de presse avant un match de boxe, pour ceux qui l'ignorent, c'est un rituel très codifié. C'est un grand rendez-vous médiatique où ça se déroule à peu près toujours dans le même ordre. Enfin, vous allez me dire si c'est comme ça que ça va se passer, mais d'abord des questions-réponses avec les journalistes. Et puis ensuite, il y a la photo. Il y a la photo avec l'adversaire, quasi tête contre tête. Parfois, c'est un moment, on l'a vu, ça a pu déraper.
If you think I'm a pussy, I'm a punk, you tell me right now. Because listen, I am the baddest man. Fucking me. Yeah?
Là, on vous fait écouter une archive. C'était en Angleterre l'année dernière. C'était Derek Chisora qui balance une table contre Dylan White. Là aussi, c'est pour assurer le show. C'est pour faire monter la pression.
Pour faire monter la pression. Après, t'en as qui s'aiment vraiment pas.
Ouais.
T'en as qui s'apprécient, qui se connaissent. Comme Joshua et Klitschko, il n'y a pas eu de dérapage pendant la conférence de presse, même si tu sentais qu'il y avait une grosse tension. Voilà, ça dépend des boxeurs, ça dépend de la relation qu'ils ont entre eux. Pour moi, le combat, il commence à la conférence de presse.
Il commence à la conférence de presse cet après-midi.
À partir de là où vraiment tu rentres dans le combat, parce ouais. que tu découvres, entre guillemets, ton adversaire, tu fais le face-à-face, la pesée est validée, tu fais la visite médicale, donc maintenant, il n'y a plus qu'à.
Vous la sentez comment, vous, la conférence de presse face à Travis Clark ?
Je la sens tranquille.
Tranquille.
Je le connais pas, je l'ai jamais vu.
C'est ça.
C'est mon premier combat pro. Comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de faux, donc je vais pas surjouer si j'ai pas de problème avec lui.
Voilà. Alors ensuite, il y a en effet la pesée. Votre poids idéal pour combattre, c'est autour de...
J'ai pris du poids depuis les JO. Donc, JO, j'étais autour d'un tour de 104. Là, je pense que je serai aux alentours de 108.
108, d'accord. Donc, on va dire quelques mots de votre adversaire, Travis Clark, donc professionnel, beaucoup plus âgé que vous. Il a 38 ans, vous avez
25.
Invaincu depuis un certain nombre de combats professionnels, 12 d'après ce que j'ai compris.
Il a plus d'expérience, il a 12 combats professionnels, 12 victoires.
Après, Est-ce que techniquement, il est un peu plus rustre que
Il est plus rustre que moi, il a un style qui est beaucoup moins technique que le mien, beaucoup plus dur.
Plus imprévisible aussi.
C'est ça.
Plus imprévisible.
Beaucoup plus imprévisible qu'un boxeur lambda.
Alors moi j'ai vu les photos de Travis Clark, il est entièrement tatoué, il a le torse entièrement tatoué, vous êtes un peu tatoué, vous avez l'épaule gauche, l'avant-bras et le biceps gauche tatoué. On se dit qu'avec l'arrivée des tatouages sur le corps des boxeurs, l'image du corps du boxeur a changé par rapport à la génération de Mohamed Ali et des Sion, dont vous avez regardé tellement les matchs et même à l'époque Mike Tyson, vos corps ont changé et ça se voit à l'image. Médiatiquement, ça donne une autre image de votre sport.
Ça donne une autre image. Après, lui, je pense que c'est vraiment autre chose. Il est tatoué de la tête aux pieds. Après, la plupart des boxeurs, ils peuvent avoir quelques tatouages, mais c'est pas non plus. On n'est pas un groupe de bikers.
Écoutez, il me reste à vous souhaiter bonne chance.
Je vous remercie beaucoup.
Pour la conférence de presse et pour le match de vendredi.
C'est ça.
Merci beaucoup, Tony Yoka.
Merci à vous.
Donc demain soir sur Canal+, Tony Yoka montera sur le ring, en fait à 22h45, mais avant il y a 7 combats qui se dérouleront auparavant et qui sont retransmis sur la chaîne cryptée, dont ceux de Mathieu Boerlic et de Souleymane Sissoko, qui sont deux des médailles de bronze de JO de la Team Solide de Tony Yoka. Voilà, c'est la fin de cette émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour, c'est un débilaire. 108 kilos, je m'y frotterai pas.
Hein, ben, je vous le déconseille. C'est une montagne gigantesque. Il est super beau. Extrêmement sympathique.
Très bien.
Alors, voilà.
Ce matin, dans un tout autre genre, comment éviter les perturbateurs endocriniens dans notre vie quotidienne ?
Très bonne question.
Ces substances chimiques mettent-elles vraiment notre santé en danger ? Ces perturbateurs endocriniens, on les retrouve partout, hein, dans les pesticides, les emballages alimentaires,
les tampons hygiéniques. L'enquête de France 5 sur les tampons hygiéniques, le traumatisme de l'équipe de l'Instant M.
Exactement, les couches, les chewing-gums, les jouets en plastique. 01 45 24 7000 pour poser toutes vos questions sur les perturbateurs endocriniens.